Lisons de nouveau dans l'épître de Jude, à partir du verset 4, 5. Or, je désire vous rappeler, vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru, et qu'il a réservé dans les liens éternels, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication de la même manière que ceux-là, et étant allés après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent leur chair et méprisent la domination, ils injurient les dignités. Mais Michel, l'archange, quand discutant avec le diable et contesté, touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn, et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant de festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nus et sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or, Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé de ceux-ci en disant : Voici, le Seigneur est venu au milieu des saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce orgueilleux discours et admirant les personnes en vue de leur propre profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, comment ils vous disaient qu'à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et les uns qui contestent, reprenez-les. Les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Dans cette épître assez triste, on peut dire, nous avons vu hier soir dans l'introduction que l'apôtre, que le disciple Judas, le frère du Seigneur Jésus, avait à cœur d'écrire des choses édifiantes, mais le Saint-Esprit lui a empêché de le faire et lui diriger de faire, d'écrire cette épître avertissante. Il décrit un état qu'il caractérise même déjà dans le commencement de cette épître que par des gens, verset 4, se sont glissés parmi les fidèles inscrits jadis à l'avance pour ce jugement des impies qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui dénie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les deux caractéristiques de ces hommes qui se sont déjà glissés à ce temps-là au milieu des croyants. Il s'agissait clairement, parce qu'il a dit, il a parlé de leur éternelle condamnation, des incrédules. Mais on a dit, et c'est très important de le voir, je ne peux jamais penser, mais s'il s'agit des incrédules, ça ne nous concerne pas et ça ne s'applique pas à nous. Alors, toutes ces choses ne seraient presque pas nécessaires de les écrire, mais il y a une pensée, un aspect qu'on ne doit jamais perdre de vue, et c'est que nous avons, comme croyants, une chair en nous qui a le même caractère que les incrédules. Il n'est en rien mieux que les incrédules. Même si les conséquences de ce jugement pour eux, la condamnation éternelle, ne sont pas les mêmes pour nous, mais notre marche peut être influencée en tant que croyant sévèrement par une conduite qui ressemble à celle de ces personnes. Paul en écrit aussi en Philippiens 3 déjà, n'est-ce pas, de ceux dont il écrivait avec des larmes, dont le ventre était leur Dieu et dont la fin était la perdition, n'est-ce pas. Naturellement, il s'agit d'incrédules, parce que la perdition, c'est une chose, mais le ventre peut devenir notre Dieu aussi, dans la pratique. Et c'est pourquoi cette épître nous a beaucoup à dire, et les deux choses par lesquelles il caractérise ces développements dans la chrétienté dans les derniers jours. Ce sont les deux choses à la fin du verset 4 qu'on change la grâce de notre Dieu en dissolution. On dit donc la grâce permet tout. Et on aboutit dans la dissolution. Et deuxièmement, on renie notre seul maître et Seigneur, c'est le reniement de l'autorité du Seigneur. Et on voit des choses dans la chrétienté. Et les dangers sont aussi imminents, non pour nous, que nous pouvons arriver à un état où nous disons, mais je suis tout sous la grâce, c'est pas grave si je dévie un peu de la parole de Dieu. Ce sont des pensées, on verra, d'un caractère terrible aux yeux de Dieu et aux yeux de quelqu'un qui a une spiritualité véritable, qui est vraiment sous la direction du Saint-Esprit. Et la deuxième chose est le reniement, comme j'ai dit, de l'autorité du Seigneur. C'est aussi comme la dissolution est la conséquence du changement de la grâce, c'est le résultat du reniement de l'autorité du Seigneur, c'est aussi la dissolution. Et on le voit autour de nous, c'est pas une liberté. On parle de liberté, mais c'est la liberté pour la chair. Le Seigneur dit, si le Fils de Dieu vous le délivrera, vous serez vraiment libre. Mais ça, c'est libre des influences du monde, libre du pouvoir de Satan, mais pas libre pour faire les choses que notre chair nous dit, parce que c'est justement cette soumission sous la volonté du Satan. Et maintenant, il commence à décrire en différents tableaux que je ne peux pas entrer en profondeur, par différents tableaux qui parlent des choses de l'Ancien Testament pour nous démontrer que tout était déjà dans une mesure là, mais maintenant ça s'accumulera, mais jusqu'à la fin, l'apostasie du christianisme sera là. Et les premières trois choses que nous voyons ici, en relation avec ce change de grâce, de notre Dieu en dissolution et du reniement de notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ, c'est démontré par les trois exemples du peuple d'Israël au verset 6, à l'exemple des anges qui sont tombés au verset 6, de ce peuple était verset 5, et au verset 6, 7, Sodome et Gomorre. Et ces trois exemples, le peuple d'Israël délivré hors d'Égypte, les anges tombés et Gomorre, ont tous les trois une chose en commun. Et c'était un péché qui les abaissait, qui les avilissait. Le péché de Satan était de s'élever. Il voulait être comme Dieu. Et il a tenté le premier couple par le même péché. Vous serez comme Dieu. C'était l'élévation de la créature à l'égalité avec Dieu, ce qui est impossible et qui est un péché terrible. Mais c'est le même péché qu'on voit aussi autour de nous, n'est-ce pas? J'ai lu récemment, tout récemment, un article sur les ordinateurs et le corps humain. Les scientifiques sont en train de trouver des liens des ordinateurs du monde des ordinateurs. Toutes les connaissances qui se trouvent dans ces ordinateurs, c'est incroyable, avec le cerveau humain, afin de créer des hommes qui ont toute l'information de ce monde à leur disposition. Et ça sera possible. Et le journaliste a posé la question, qu'est-ce que votre but ? Oh, disait le scientifique, peut-être un homme-dieu. Vous voyez ? Ça, c'est l'élévation. Et l'antichrist sera exactement ça. Il sera un homme qui se placera dans le temple de Dieu et dira, je suis Dieu. Donc, c'est tellement loin, le développement de ce monde est déjà. Mais ici, nous avons le contraire. Nous avons l'abaissement de l'homme sous le niveau de l'appel de Dieu, là où Dieu nous a appelés à être. Il avait appelé le peuple d'Israël de l'Égypte. L'Égypte est l'image de ce monde. Dieu les a appelés pour les amener dans le pays de Canaan, une image, un type de nos bénédictions dans les cieux. Et qu'est-ce qui s'est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Le peuple, la plus grande partie du peuple, était tellement incrédule qu'il voulait retourner vers l'Égypte. Et Dieu dit, c'est non seulement une désobéissance, mais c'est un abaissement, parce que Dieu vous a appelé, vous a délivré de l'esclavage de l'Égypte et vous a fait son propre peuple, il vous a élevé spirituellement et vous voulez non seulement retourner naturellement, mais vous voulez abaisser pour retourner en bas, là où le péché a régné. Et c'était un tel péché que Dieu a éradiqué tous les Israélites qui étaient sortis de l'Égypte, à cause de leur incrédulité, que Dieu les voulait bénir richement, ils se sont tournés, ils voulaient retourner en Égypte. Dieu les a empêchés. Le deuxième exemple, c'est l'exemple des anges. Et il ne s'agit pas ici des anges qui sont tombés avec Satan quand il s'est élevé avant la création des hommes. C'est en 1 Timothée 3, nous avons ce passage, un seul verset, un demi-verset, qui parle de la chute de Satan. C'est 1 Timothée 3. C'est verset 6, où il est dit qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Donc dans une phrase subordonnée, il dit que le péché du diable était de s'élever, d'être comme Dieu, il est tombé dans le jugement de Dieu. Et nous avons deux chapitres dans l'Ancien Testament, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, où nous avons en image les rois de Babel et de Tyr qu'ils voulaient s'élever, mais ils sont tombés l'enfer. Mais ici, on a les autres anges. Quand Satan est tombé, il a attiré beaucoup d'anges avec lui, dont nous parlent les évangiles, parce que Satan est toujours libre, en liberté. Satan n'est aucunement lié, et ses démons ne sont pas liés non plus. Mais ici, il est question des anges dont il est dit... des anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, qui étaient tombés plus tard. Il y a seulement un chapitre dans la Bible qui peut être comparé avec ce verset, c'est Genèse 6, où les fils de Dieu, ce sont normalement, nous sommes aussi fils de Dieu, mais pas dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu, c'était les anges qui se sont abaissés de leur position céleste. Ils ont pris une figure humaine et se sont mêlés avec les femmes humaines. C'était une descente spirituellement et réellement. Et c'était pire que si on peut faire une distinction, n'est-ce pas? C'était aux yeux de Dieu pire que l'élévation du Satan qui est jugé, mais toujours libre. Mais ces anges ont été jetés dans une misère, la perdition, déjà directement après leur chute qui se démontrait dans le fait qu'ils se sont abaissés, ils ont quitté le ciel, ils sont venus sur la terre. Ils se sont mêlés avec les femmes des hommes et les produits étaient les géants. Un troisième exemple, nous le trouvons en Sodome. Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour, c'était Adam et Zéboïm, mentionnés dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, s'étant abandonnés à la fornication de même manière que ceux-là et étant aller après une autre chair, sont là comme un exemple subissant la même peine d'un feu éternel. Donc les habitants de Sodome sont décrits comme s'abaissant, se dévilissant aussi d'une manière de laisser l'ordre de Dieu pour le mariage. La fornication qui est mentionnée et même aller derrière d'autres chairs, n'est-ce pas? On connaît cette expression dans le monde de la sodomie. Ces habitants ont quitté l'ordre divin et se sont abaissés au niveau des animaux. Et c'est exactement, chers amis, le niveau que moralement nous voyons autour de nous. Et Dieu dit, ce sont des exemples, ces trois exemples d'abaissement, qu'on a quitté le niveau que Dieu nous a, que Dieu a donné pour s'abaisser, pour se dévilir et faire des choses qui sont pas dignes de cet appel auquel Dieu les avait appelés. Naturellement, c'est pour nous. Ce sont des exemples que pour nous, quand nous retournons vers le monde ou cherchons le monde, nous nous abaissons aux yeux de Dieu. Et c'est un grave, grave péché. Ce n'est pas seulement dangereux pour nous, mais c'est un affront contre l'appel avec lequel Dieu nous a appelés. Maintenant, il est dit, ils sont des exemples. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités. Maintenant, il fait l'application à ces rêveurs. C'est un rêveur, dans ce sens, est quelqu'un qui ne tient pas à la parole de Dieu, mais qui a ses propres fantaisies, qui suit ses propres fantaisies dans le royaume spirituel, et dit, ça c'est mon idée, ça ce sont mes idées, et je suis ces idées au lieu de la parole de Dieu. Ça c'est un rêveur. Il y en a beaucoup dans ce monde, dans le monde chrétien aussi. Mais on peut directement distinguer, est-ce que la parole de Dieu est présentée, ou ce sont des rêves de personnes qui peut-être ont une bonne, un bon don à parler, de présenter les choses d'une manière attrayante, mais c'est toujours attention. Si quelque chose est offert d'une manière attrayante, c'est toujours un danger. Toujours, nous sommes en danger d'être entraînés. La vérité divine n'a pas besoin d'une attraction humaine. Nous n'oublions pas. Les attractions que l'homme fait ajouter à toutes les choses, ils ne sont pas nécessaires pour la vérité, parce que la vérité ne s'adresse pas à notre chair qui est susceptible pour ces choses, mais à notre conscience. Et la conscience la parole arrive à la conscience comme une épée à deux tranches, n'est-ce pas? C'est pas la beauté. C'est-à-dire, un frère me disait quand j'étais très jeune, ça m'a beaucoup aidé. La vérité n'a pas besoin d'être faite attractive, elle est. Elle se recommande à notre conscience. Mais si quelqu'un vous offre une doctrine ou des choses d'une manière attrayante et vous êtes attiré par cette manière, ça c'est le danger. Vous ne voyez plus ce qui est dit, mais seulement la manière par laquelle c'est dit, n'est-ce pas? Ça c'est un grand danger. Et ce sont les rêveurs. Ce n'est pas la vérité, la réalité, mais les rêveurs. Ils souillent la chair. On a vu les exemples. Sodome méprise la domination. C'était les anges, n'est-ce pas, qui ont méprisé la domination de Dieu. Ils ont dit, pour ainsi dire, notre appel que Dieu nous a donné, nous avons le pouvoir de nous abaisser. Ils ont fait. Et troisièmement, ils injurient les dignités. On n'a plus un respect pour une autorité quelconque. Et dans ce monde, ça c'est, comme j'ai dit cet après-midi, c'est enseigné. Ne respectez pas d'autorité. Mais c'est la dissolution. Dieu nous dit autre chose. Alors, nous avons un contre-exemple dans le verset 9. Mais Michel, l'archange, qu'en discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur le censure. Ici, dans le verset 9, nous avons le deuxième détail d'une histoire qui s'est déroulée dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas contenue dans le texte de l'Ancien Testament. La première chose était la chute de ces anges en Genèse 6. Il n'est pas dit ce que c'était exactement, c'est expliqué ici, c'était un abaissement de leur état original. La deuxième chose, nous trouvons ici, qui n'est pas rapportée dans l'Ancien Testament, qu'après, nous ne savons quand, nous ne savons pas où, mais il y avait, après la mort de Moïse, que Satan voulait s'emparer de ce corps. Probablement, on connaît les religions, d'en faire une reliquie, pour ainsi dire, n'est-ce pas, un idole, Moïse, le corps de Moïse, n'est-ce pas. Mais Dieu l'avait enseveli lui-même. Il ne voulait pas que personne sache où Moïse, le corps de Moïse, se trouve. Et maintenant, Michel, l'archange, a eu un combat avec Satan concernant ce corps de Moïse. On ne sait pas quand cela a été, mais ça a pris place au ciel. Satan est un être ciel, céleste, et Michel l'archange aussi. Et on voit ici, on ne peut pas approfondir, le pouvoir et la grandeur de Satan. Qu'un archange comme Michel, qui était opposé au Satan, n'osait pas user des mots inappropriés, mais il disait seulement que l'Éternel te censure. Tel respect, un archange, une des créatures les plus élevées, avait de Satan, dont on dit, et je crois à juste titre, qu'il était probablement la créature la plus élevée de toutes. Et c'était lui qui voulait se mettre à la place de Dieu. Et même après sa chute, il est toujours au ciel. Il a entré devant le trône de Dieu pour nous accuser. Job le dit, et aussi Apocalypse 12 le dit, n'est-ce pas, que Satan est devant le trône de Dieu pour accuser les siens qui sont ici-bas sur la terre. Un être d'un pouvoir pour nous incompréhensible et insondable. Et on voit ici que même un archange comme Michel, il est le seul archange dans la Bible, Gabriel, ce n'est pas jamais dit qu'il était un archange. Mais il n'osait pas censurer Satan, il a dit que l'Éternel le fasse. Tel respect un archange a d'une créature comme Satan, bien qu'il soit tombé. Mais ceci, cette expression figure arrive plusieurs fois encore, ce sont ces rêveurs. Et maintenant, toujours de nouveaux caractéristiques de ces personnes sont mentionnées dans le verset 10 et dit, mais ceux-ci, et ce sont des personnes qui sont actuellement dans la chrétienté, et les descriptions ici sont des descriptions des caractéristiques qui peuvent aussi prendre racine dans le cœur d'un croyant. Ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas. Tout ce qu'ils ne connaissent pas sont des choses qui ne sont pas, qui sont révélées, mais eux ne le connaissent pas parce qu'ils sont incrédules. Et ils maudisent, injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Nous avons ici l'application de ces trois exemples, Israël, Sodome et les anges, ou les anges et Sodome, n'est-ce pas? Et on a comparé avec cet abaissement. Et ici, on voit le reniement de l'autorité de Dieu et d'un autre côté, cet abaissement en se comportant comme des bêtes. Et chers amis, la morale du temps du présent, c'est la morale des bêtes. C'est seulement l'homme auquel Dieu a donné le mariage. Selon l'ordre de la nature, de la création, et deuxièmement, comme nous l'avons vu cet après-midi, comme image de la relation entre le Sauveur et son épouse, l'Assemblée. Ça, c'est la place, on peut dire, élevée que Dieu a donné à l'homme en tant que créature. La créature ne le comprend pas. Nous, comme croyants, nous connaissons cette place élevée du mariage. Et maintenant, le monde. On n'a pas besoin de dire grand-chose, n'est-ce pas? On dit, vous pouvez vivre comme les bêtes sexuellement. C'est ce qu'il y a dit ici. Et la chair aime ça, ça c'est le problème. Et c'est pourquoi cette chose a une voix pour nous, pour la jeunesse, surtout parce que ce sont des convoitises de la jeunesse, surtout, n'est-ce pas? Pas très exclusivement. Mais ça, c'est cela qui est dit ici, n'est-ce pas? Ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Ce ne sont pas des choses spirituelles. Ce sont des choses naturelles que Dieu, pour l'homme, a fixé dans une forme qui lui plaît et qui miroite dans un certain sens même la plus grande chose dans ce monde, le Seigneur et son assemblée. Et ça, c'est mis de côté. Ils ne connaissent pas. Mais ils font les choses qu'ils connaissent comme les bêtes sans raison ou les bêtes naturelles, n'est-ce pas? Quelle image, quel tableau de notre monde. Et, chers amis, je suis presque dans chaque, je ne dis pas, j'ose pas dire, mais dans combien de familles de chrétiens on a trouvé ces développements, n'est-ce pas? Que les enfants ont choisi ce chemin. Ils injurient des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils se jettent dans les choses qu'ils peuvent comprendre comme des bêtes sans raison. Et ils pensent que c'est la liberté, l'assujettissement, l'esclavage de Satan dans laquelle ils se trouvent, n'est-ce pas? Et de laquelle, quand même, Satan, le Seigneur Jésus, nous a arrachés et peut les arracher. Mais cessons donc de prier pour ces pauvres jeunes hommes et femmes qui se sentent plongés dans ces péchés, n'est-ce pas, et pensent qu'ils ont la liberté. Ici, c'est le jugement de Dieu et de sa parole sainte. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn. Naturellement, ceux-ci sont des incrédules dont le sort est la perdition. Mais leur chemin... Et le chemin est toujours la pratique dans notre vie, est le chemin de Caïn. Et qu'est-ce que c'est le chemin de Caïn? Il est dit que Caïn s'en allait loin de la face de l'Éternel. C'était le chemin de Caïn. Et c'est aussi une chose que certaines familles, n'est-ce pas, que les enfants se sont en allés loin de la face de Dieu. Et quand même, le bon berger les cherche. Je peux ajouter ces remarques, n'est-ce pas, parce qu'on voit l'application pratique dans nos assemblées et dans nos vies et dans nos familles. Ne cessons pas de prier que le bon berger vienne à la recherche de cette brebis perdue et pour le sauver. Malheur à ceux. Le chemin de Caïn, c'est le chemin loin de Dieu. Deuxièmement, l'erreur de Balaam, c'était Balaam était un magicien, un sorceleur de la Syrie de Babylone, qui a été dans Nombre 22, etc. On peut le lire, qui a été acheté par le roi de Moab, Balak, pour maudire le peuple d'Israël. Et Dieu l'a empêché. Mais ici, il ne s'agit pas de ce que Dieu a fait, mais de l'esprit de Balaam qui pensait pour de l'argent. Il était donc quelqu'un qui désirait l'argent, de pouvoir maudire le peuple de Dieu, dire des mauvaises choses du peuple de Dieu. Dieu l'a empêché. Mais ça montre cet esprit qui est là pour de l'argent. Et troisièmement, ils ont péri dans la contradiction de Corée. Corée, on trouve dans Nombre 16, etc. Corée était un lévite. Les lévites étaient les serviteurs des sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient les serviteurs du grand sacrificateur, du souverain sacrificateur. Et maintenant, Corée, un des lévites, disait, pourquoi ? Nous, les lévites, sommes tous égaux. Nous avons les mêmes droits que les sacrificateurs et le grand sacrificateur Aaron. Et nous voulons aussi entrer dans le sanctuaire. Nous avons les mêmes droits. Je ne peux pas répéter toute l'histoire. Dieu a parlé. Pas seulement parlé, il a agi. Il a dit, séparez-vous. C'est une des premiers passages où il est dit de se séparer des pécheurs dans le peuple d'Israël. Séparez-vous et je les anéantirai dans un instant. Il a fait. Ils sont brûlés et la terre a ouvert sa bouche, n'est-ce pas? Et cette contradiction de Corée était une contradiction spirituelle. Dieu avait donné des conducteurs et des serviteurs qui devaient entrer dans le sanctuaire à cette époque. Maintenant, nous avons quand même tous la libre entrée dans le sanctuaire comme sacrificateur. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Donc, on ne peut pas transmettre un à un dans le temps aujourd'hui. Mais quand même, il y a aussi danger de protester. De protester, pour ainsi dire, spirituellement, sans avoir une vraie raison, sans protester contre le mal. Cette protestation contre un mal évident, c'est une chose qui est normale et nécessaire pour la sainteté de l'Assemblée. Mais ici, il s'agissait d'une protestation de personnes qui voulaient du pouvoir. Et ça, c'est en lui-même, en soi-même, c'est déjà un péché est dangereux. Et Dieu a parlé et agi. C'était la contradiction. C'était la contradiction de Corée et ses adhérents qui voulaient se mettre en avant et avoir quelque chose à dire. Et Dieu a dit non. C'est une protestation de la chair et je ne peux pas accepter. Mais ces personnes font les mêmes choses, n'est-ce pas? Ils se mettent contre les chrétiens et disent, nous avons les mêmes droits, disons seulement l'introduction des principes démocratiques dans la chrétienté, n'est-ce pas? La Bible ne connaît pas la démocratie, c'est très simple. Et nous qui sommes partiellement... Et vous, qui, les jeunes qui êtes totalement éduqués dans cette pensée dans le monde des démocraties, on doit apprendre de nouveau que dans l'Assemblée, il n'y a pas de démocratie. Il y a seulement la parole à laquelle tous nous courbons et nous sommes assujettis. Il n'y a pas moyen de mettre la parole de côté. Et deuxièmement, quand il s'agit des décisions, c'est l'unanimité. La démocratie a toujours la majorité. Mais dans l'Assemblée, il n'y a pas question de majorité, seulement de l'unanimité. Une unanimité spirituelle qui est basée sur la parole et sur un entendement, une compréhension spirituelle. Donc ici, on a ces dangers qui nous montrent qu'ils sont très proches de nous, n'est-ce pas? Et on est éloigné, on est séparé de tout ça, grâce à Dieu, chers amis. Mais les principes peuvent entrer dans nos cœurs, dans mon cœur. Et ça, c'est le danger, ça, c'est l'enseignement de cette épître pour nous. Et maintenant, il est dit au verset 12, pour la deuxième fois, ceci. Ce sont ces incrédules avec leurs principes malheureuses, avec leurs principes qui mènent à la perdition, mais quand même, la pratique nous a beaucoup à dire. Ceci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nués eux-mêmes. Et maintenant, il est dit que ces personnes peuvent se glisser et se sont glissées au milieu des croyants. C'est difficile à expliquer, ou à comprendre, parce que on dirait, mais c'est impossible que dans un rassemblement des croyants, de telles personnes peuvent se glisser. Mais et j'ai entendu ça tout récemment, dans un continent où il y a toutes autres circonstances, qu'on a fait l'expérience, qu'il y avait des personnes qui se appelaient chrétiens, qui avaient une bonne connaissance de la parole, qui se comportaient que de vrais chrétiens, année après année, et après 10 ans, 15 ans, ils se révélaient, manifestaient qu'ils n'étaient pas du tout chrétiens, parce que tout d'un coup, ils niaient tout. C'est l'image ici. Ce n'est pas tellement loin, n'est-ce pas? C'était dans les rassemblements, pas dans ce continent. On dirait que c'est impossible, mais ce sont des choses qui sont vraiment arrivées et qui se sont vraiment passées. Mais de l'autre côté, cette application à la vie des croyants, il se peut que, et nous avons ça dans Philippiens 3 déjà, n'est-ce pas? Il se peut qu'un croyant est tellement influencé par le monde que toutes ses pensées sont seulement mondaines. Il pense tout seulement à l'argent, à une bonne présentation, n'est-ce pas? Seulement les choses extérieures. Et il est croyant. Mais il n'y a pas une vie active de croyant. Il est au milieu des croyants. Quelle est son influence? C'est la question. Il est aux réunions, aux agapes, quand on mange ensemble, n'est-ce pas? On rit, on parle, mais de quoi parle-t-on? Quels sont les sujets? Et alors, on introduit des choses qui sont pas édifiantes, qui sont peut-être mondaines, pourquoi pas? Je fais ça depuis des années, tu peux le faire, n'est-ce pas? Et un autre dit, mais je le connais depuis longtemps, je ne vais pas aller dans trop les détails. Et on peut influencer les croyants, un croyant charnel peut influencer des croyants qui sont spirituels mais faibles. Et qui disent, mais si telle personne dit ça et fait ça, peut-être ce n'est pas tellement mauvais. Ils sont des taches dans vos agapes, n'est-ce pas? Parce que de fait, du coup, ce n'est pas leur place d'y être de tout, n'est-ce pas? Chers amis, c'est une épître très triste, mais très révélante aussi, n'est-ce pas? Elle nous ouvre les yeux pour l'état de choses qu'on n'aime pas avoir. On ne veut pas voir, on n'aime pas à voir et à rechercher des choses négatives dans le rassemblement. Et moi, je ne veux aucunement vous influencer de le faire, mais c'est la parole qui nous ouvre les yeux pour des choses que normalement il est difficile à trouver. Mais quand on les a découverts, c'est probablement déjà trop tard pour beaucoup, pas pour le rassemblement en tout. Quand on a eu des difficultés il y a 20 ans, quelle était c'est une application. Qu'est-ce qu'on voulait? Les frères et sœurs dont on est séparés maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient, dans une phrase, plus de liberté pour la chair. Plus de liberté pour la chair. Sous différents aspects, dans différents points de vue, mais c'était tous les changements qu'on voulait. C'était la liberté pour la chair. Et je vous dis, la parole dit, la chair n'a pas de place dans le rassemblement. La chair n'a pas de place dans ma vie. Et ici, dans ces personnes, la chair prend la première place. Je ne dis pas que nos frères et sœurs ont tout ce caractère, mais c'est une application à des croyants qui se sont en allés, dont on a dû se séparer en Allemagne comme ici, qui ont voulu élargir, comme dit, mais c'était la chair, c'était une place, on donne une place pour la chair. Et on peut regarder et rechercher, on dira, c'est vrai. Et si on est décidé de le faire, on peut très peu faire. Et nous avons plusieurs autres exemples ici, mais nous voyons que déjà Hénoc, dans le verset 14, a déjà prophétisé de ceci, en disant, voici Seigneur, le Seigneur est venu au milieu de ces saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété. Hénoc était la septième génération après Adam. Et nous savons que Dieu, le monde était déjà tellement méchant que Dieu a enlevé Hénoc avant le déluge, juste avant le déluge, quelques temps avant. C'est l'image, le type des croyants qui seront enlevés à la venue du Seigneur Jésus. Mais ce Hénoc qui marchait avec Dieu, il est mentionné dans Hébreux 11, mais ici nous apprenons la troisième histoire qui n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament, mais est révélé ici qu'il était un prophète, qu'avant son enlèvement, Dieu a utilisé comme prophète pour dire qu'à la fin, juste avant le millénium, l'apparition du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement ici, parce que le Seigneur vient avec tous les saints, il sera celui qui exécutera le jugement sur ces personnes. Donc, depuis les temps de Hénoc, depuis les temps de Jude dans le Nouveau Testament, jusqu'à l'apparition de Dieu, le mal continuera et il s'aggravera de jour en jour. Et à la fin, le jugement de Dieu dans la personne du Seigneur prendra place. C'est ici, en premier lieu, le jugement des vivants que nous trouvons en Matthieu 25, verset 31, où le Seigneur, venant dans sa gloire, rassemblera devant lui toute la population du monde, les uns à droite, les brebis, et les autres, les boucs, à sa gauche. Et les uns seront ceux qui entrent dans le règne de mille ans ici sur la terre, et les autres sont les perdus qui reçoivent ce jugement. Dieu viendra, le Seigneur viendra, et il exécutera ce jugement. Et c'est un souvenir à cette vérité de la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps de la grâce, n'est-ce pas? Et on dit, mais on ne voit pas que Dieu existe. Je vous donne, si quelqu'un dit ça, c'est une remarque en bas de page, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit, mais je ne vois pas une preuve pour l'existence de Dieu, vous dites, regardez le peuple d'Israël dans le pays d'Israël. C'est la plus claire preuve de la vérité de l'Écriture, parce que Dieu a déjà dit à Abraham, votre semence, tes enfants habiteront toute l'éternité jusqu'à la fin de la terre dans le pays. Dieu a dit, vous entrez, je vous enlèverai à cause de vos péchés, mais à la fin, je vous rentrerai. Et ça, c'est la plus grande preuve pour la vérité de la Bible, l'histoire, la vérité historique de la Bible et prophétique. Et de cette manière aussi, les prophéties d'Enoch seront réalisées au moment où le Seigneur apparaîtra en gloire pour exécuter le jugement et pour établir son royaume de 1000 ans. Maintenant, au verset 16e, pour la dernière fois, ces rêveurs, ces ennemis du christianisme, ces ennemis des chrétiens, ces ennemis de Dieu, dans leur position, mais avec une grande influence, ils sont caractérisés comme des murmurateurs. Ils sont mécontents de toute chose dans cette terre, des murmurateurs. Se plaignant de leur sort, n'est-ce pas? Ils sont toujours mécontents de leur environnement, mais aussi de leur sort, de leur directe circonstance, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours, donc des grandes paroles sans activité spirituelle, et admirant des hommes en vue de leur propre profit. Ce sont les serviteurs des hommes, le caractère de l'homme naturel, mais avec un vêtement chrétien. C'est la dernière fois où ces pauvres personnes, ces murmurateurs, plaignant de ce sort, marchant selon leur propre convoitise, sont mentionnés. Et maintenant, pour la fin, il dit, mais vous, bien-aimés, ce sont les chrétiens. Souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous trouvons dans les épîtres, deuxième épître à Timothée, la deuxième épître de Pierre, dans la première épître de Jean déjà, n'est-ce pas, l'Antichrist, c'est la fin. Ce sont les paroles des apôtres de notre Seigneur. Et Jude prend pour la réalité que les chrétiens connaissaient ces lettres. Encore un rappel à la connaissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient qu'à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Nous avons vu ça au cours de cette méditation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces moqueurs marchant qui marchent selon leur propre convoitise d'impiété. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est salutaire pour notre vie, mais ce sont les propres convoitises qui nous immersent de plus en plus dans la misère, n'est-ce pas? Regardez dans ce pauvre monde où trouve-t-on des gens qui sont vraiment heureux. Ils sont tous contents de dire, mais Dieu, ça n'existe pas. Mais de trouver des gens qui sont vraiment heureux, ils sont heureux dans leur ignorance de leur sort, n'est-ce pas? Mais la plupart sont mécontents, sont des murmures, de ceux qui murmurent et qui sont mécontents de tout ce que leur arrive, le travail, les voisins, etc., les circonstances de travail, etc. Quand on est dans un bus ou dans un train ou dans quelque part à la caisse de la supermarché, les gens ne parlent que du mal de l'argent. Et qu'ils ont trop peu. Murmurateurs. Ça, c'est la situation dans laquelle ils sont pas heureux et reconnaissants. Mais vous, bien-aimés, ou en Timothée, mais toi, c'est toujours, tu vois les autres, ne te laisse pas influencer par eux, en contraste avec eux, mais vous, mais toi. C'est un encouragement pour nous, mais vous, bien-aimés, non seulement de la part de Jude, mais aussi de Dieu. Souvenez-vous des paroles des apôtres. Comment il vous disait, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes. Ce sont ceux qui, naturellement, ils ne se séparent en général du christianisme, parce que alors leur influence serait nulle, n'est-ce pas? Mais de quoi séparent-ils? De quoi se séparent-ils? Ils se séparent de tout chrétien fidèle. Ils cherchent d'avoir des groupes de tels chrétiens qui ne sont pas affermis dans la foi et qui, à cause de leur caractère caractéristique, ils parlent avec grande parole, n'est-ce pas, disent « Ah, ça c'est notre gourou, ça c'est notre conducteur ». Ça c'est une image dans beaucoup de grandes parties de chrétienté. Heureusement, il y en a aussi des fidèles qui, dans toute leur ignorance de la parole concernant la place de réunion, ils sont fidèles. Mais ici, il parle de ceux qui se laissent déduire, n'est-ce pas? Séduire. Ils se séparent donc pas de chrétiens en général, mais des chrétiens qui sont spirituels, qui prennent la parole au sérieux. Ils ne veulent plus avoir, parce qu'ils ressentent qu'ici, ils ne peuvent pas arriver à leur but. Donc, ils se séparent et cherchent d'autres cercles. N'ayant d'homme naturel, ici, ces rêveurs, ces ennemis sont clairement caractérisés comme incrédules, hommes naturels, en contraste avec des hommes spirituels, n'ayant pas l'esprit. C'est absolument clair. Mais de nouveau, à la fin, ne pensons pas que les choses n'ont rien à nous dire. J'espère que par ces exemples que je vous ai donnés, il est clair qu'en pratique, dans l'application, ces principes ont beaucoup nous à dire dans leur application, même si les conséquences éternelles de la perdition ne sont pas les nôtres. Mais notre chair n'est pas mieux que la chair d'un incrédule. Mais vous, pour la deuxième fois, verset 20. Et maintenant, nous avons les encouragements pour le temps de la fin. Des versets qui sont pleins de vrais encouragements, qui sont pleins de sollicitude de la part de notre Seigneur et du Saint-Esprit, et qui peuvent nous réellement encourager. Nous avons ici, dans les versets 20 jusqu'à 23, sept différentes choses. D'abord, il est dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. C'est la troisième expression qui est utilisée pour la parole. La première, c'est notre commun salut, verset 2. La deuxième est la foi, une foi transmise au saint. Et ici, votre très sainte foi. Pourquoi très sainte foi? Parce que de nouveau, il est dit que la foi au Seigneur, dans le Seigneur Jésus nous élève, nous retire, nous arrache de ce monde et nous élève dans la présence de Dieu. Parce que le seul autre contexte dans lequel le mot très sainte est utilisé, c'est le sanctuaire de la tente d'assignation et les temples. Nous avons là un lieu très saint. Et notre foi nous conduit directement là, dans la présence du Dieu éternel, du Dieu saint, mais aussi du Dieu amour qui s'est manifesté dans son Fils, le Seigneur Jésus. C'est notre très sainte foi. Et pour la dernière fois, nous sommes exhortés de nous affermir dans cette foi, de nous occuper, c'est-à-dire en pratique, édifiant vous-même sur votre très, très sainte foi. C'est-à-dire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de lire la parole, d'être édifié en lisant la parole sous prière par le Saint-Esprit et par là être fortifié dans la foi. Dans la parole de Dieu, le Seigneur désire que nous soyons des bâtiments qui sont fondés, qui ne sont pas facilement à ébranler. Le Seigneur nous dit que nous sommes que nous soyons des arbres avec des racines enracinées, qui ne sont pas facilement secouées ça et là comme un roseau qui est secoué en Éphésiens 4 par chaque vent de doctrine, n'est-ce pas? Il y a des croyants qui sont comme ça. Mais je ne veux pas les mépriser, mais Dieu dit, ce n'est pas ma volonté que vous soyez des oiseaux, mais que vous soyez des arbres enracinés. Et c'est seulement par la nourriture, l'arbre a aussi besoin de nourriture, de la parole. Vous édifiant sur votre très sainte foi, c'est en trois mots, la lecture de la parole sous prière et les effets de cette lecture. Ça, c'est l'édification sur notre très sainte foi. Deuxièmement, la prière, priant par le Saint-Esprit. Et la question est, si ces choses sont tellement importantes, est-ce combien de temps, combien d'énergie nous prenons pour ces choses? La prière et la lecture de la parole. J'aimerais souligner que ces deux choses appartiennent aux piliers, aux colonnes de la foi chrétienne. Même en acte 2, verset 42, la doctrine, la parole, la foi est mentionnée en premier et la prière en quatrième dans ce verset, n'est-ce pas? On ne peut guère trop souligner l'importance de ces deux choses ici, les deux priant par le Saint-Esprit. Et cette prière, on pourrait beaucoup dire, n'est-ce pas, ce n'est pas une prière quelconque. Je regrette de dire ça, parce que la prière par le Saint-Esprit est aussi mentionnée en Éphésiens 6, n'est-ce pas? C'est la prière est la septième partie de l'armure de Dieu, priant par l'Esprit. Quelle est la différence entre une prière en général et une prière dans l'Esprit? C'est, dans un mot, se laisser diriger par le Saint-Esprit pour les prières. Nous pouvons, d'un côté, Philippiens 4, apporter tous nos besoins dans la présence de Dieu. Mais il n'est pas dit que nos prières sont exaucées toujours. Il est dit que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, nous garde nos cœurs, nos pensées dans Christ Jésus. Mais ici, cette priant par le Saint-Esprit, on peut dire que le Seigneur l'a fait tout le temps. Mais pour nous, c'est une prière sur un niveau élevé. Et la parole ne dit pas que nos autres prières ne sont pas exaucées, mais la parole nous encourage de prier sur un niveau élevé par cette personne qui est en nous. Et c'est l'Esprit qui désire nous diriger dans notre vie. Et que si nous nous laissons diriger par lui, nos prières seront en esprit. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est conservez-vous dans l'amour de Dieu. Nous connaissons l'amour de Dieu qui nous a aimés et a donné son Fils pour nous. Nous connaissons l'amour du Seigneur pour nous qui s'est donné en sacrifice. Mais ici, c'est l'appel de nous conserver dans l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour qui vient de Dieu. Comment peux-je me garder dans cet amour? Un simple exemple. Le soleil brille. Mais tu es dans la, dans le à l'ombre. Pardon. Vous êtes à l'ombre. Vous dites, je ne ressens rien du soleil, parce que vous êtes à l'ombre. Et ça, c'est. Mettez-vous au rayon du soleil. Vous vous gardez, dans cette image, vous vous gardez dans l'amour de Dieu. Et en Jean 15, verset 10, le Seigneur Jésus dit, si vous gardez mes paroles, mon Père vous aimera. Vous êtes gardé dans l'amour de Dieu, non pas seulement par un sentiment. Naturellement, on peut s'éloigner par ses pensées, mais le Seigneur dit, si tu concentres des pensées sur moi et sur Dieu le Père, tu es dans son amour. Mais il dit aussi, en Jean 15, verset 10, si vous gardez mes paroles, mon Père vous aimera. Donc cet amour, nous garder dans l'amour de Dieu, c'est aussi garder sa parole. C'est inséparable. Quatrièmement, nous avons, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Je crois que ici nous avons l'attente de la venue du Seigneur pour la vie éternelle. Dans un sens, nous possédons tous la vie éternelle déjà. C'est le don de Dieu, n'est-ce pas? Comme Jean 3, verset 16 le dit, n'est-ce pas? Que chacun qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ici, ce n'est pas la vie éternelle en nous, mais la vie éternelle là où elle a son origine, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus. Lui, il est la vie éternelle. Et quand il viendra nous chercher, nous verrons la vie éternelle dans la personne du Fils de Dieu. Ça, c'est le vrai sens de la vie éternelle. Mais c'est la miséricorde ici. C'est le seul endroit dans la Bible où la venue du Seigneur est comparée avec, ou mise en relation avec sa miséricorde. Mais en rétrospective, quand on regarde un peu en arrière et voit les descriptions que nous avons parcourues dans cet épître, on comprend qu'en vérité, la venue du Seigneur sera un résultat de sa miséricorde avec nous, il ne veut pas nous laisser plus longtemps dans cette misère. C'est sa miséricorde. C'est notre espérance bienheureuse et vivante. Mais quand il viendra, ce sera une expression de sa miséricorde avec nous. Parce qu'alors, il sera la fin pour les incrédules, n'est-ce pas? Aucun qui a connu l'Évangile maintenant et qui n'a volontairement pas accepté sera là alors éternellement perdu. Maintenant, c'est le jour de la grâce, jusqu'à sa venue. Donc, ne pense pas, ah, je veux jouir de ce monde un peu, laisse-moi et dans quelques années, je peux me convertir et retourner à ce que j'ai appris par mes parents. Ne pense pas ça. Le Seigneur peut venir instantanément, ce moment. Et alors, il sera trop tard. C'est la miséricorde pour ceux qui croient en lui qui sera révélée. Et c'est la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et maintenant, nous avons toutes ces choses que nous venons de regarder, considérer, les quatre choses, sont individuelles. La foi, l'amour de Dieu, la prière et l'attente de Dieu, du Seigneur, ce sont des choses individuelles. Mais il est dangereux de penser, et on connaît des frères qui pensent comme ça, on ne peut plus se réunir sous ces circonstances, on reste seul. Malheureusement, cela existe. Mais ces versets suivants nous montrent clairement que ce n'est pas juste. On ne peut pas se retirer de l'unité du corps. On fait part de ce corps. Et on ne peut pas dire que ce corps n'existe plus. Il existe. Il peut toujours, c'est encourageant, bien qu'il s'agisse des exhortations, c'est le fait lui-même est encourageant, parce qu'il dit « Ne vous retirez-vous pas dans la solitude, mais les uns qui contestent, reprenez-le, ce sont peut-être ces rêveurs. Il ne faut pas laisser aller, laisser faire et laisser aller. Il faut, et c'est dans la communion des frères, les uns qui contestent, ça présuppose qu'il y a toujours des réunions, toujours des rassemblements, où il se peut que quelqu'un conteste, alors il faut le reprendre. La discipline de l'Assemblée continue, comme tous les autres privilèges, comme tous les privilèges, la responsabilité continue jusqu'à la fin. C'est la première leçon. La deuxième est que nous avons à faire des distinctions spirituelles. Il est dit, les uns qui contestent, que ce sont des méchants, n'est-ce pas, qui désirent détruire quelque chose, contester. Mais les autres, sauvés, les avec crainte. Et ça, c'est encourageant aussi. Il faut faire des différences. On ne peut pas traiter chaque chrétien qui n'est pas d'accord avec nous de la même manière. Il y a ceux qui sont des contesteurs, il y a ceux qui sont faibles, qui ne peuvent pas comprendre par faiblesse. Et on n'a pas le droit de traiter les deux identiquement, d'une manière identique, n'est-ce pas? Et je trouve ça tellement beau, comment le Seigneur, par son esprit, nous enseigne jusqu'à la fin de croître spirituellement afin que nous soyons à même de faire ces distinctions. Est-ce que je peux le faire, de distinguer quelqu'un qui conteste et qui veut peut-être détruire, et quelqu'un qui pose des questions, mais c'est la faiblesse. Il faut les distinguer. Non seulement ça, il faut les traiter de la même manière, n'est-ce pas? Les uns, reprenez-les, les autres, il est dit, sauvez les avec crainte. Ils sont influencés par une mauvaise pratique, une mauvaise doctrine, et ils sont en danger d'être perdu. Je ne dis pas que c'est toujours la perdition éternelle. Mais il faut faire des distinctions et il faut un traitement différent. Ça, c'est encourageant, mais ça pèse aussi sur la responsabilité des frères qui s'occupent de ces choses, n'est-ce pas? Faire ces différenciations. Et troisièmement, aussi très important, sauvez et avec crainte, les arrachant hors du feu. Et la troisième chose est, haïssant même le vêtement souillé par la chair. C'est une image, il ne s'agit pas d'une souillure de ma veste, mais il s'agit de notre comportement, de notre marche. Et c'est une vérité qui est déjà visible dans le sacrifice pour le péché, que le sacrificateur qui offrait ce sacrifice devait se laver et ses vêtements après le sacrifice, en apportant un sacrifice du péché qui parlait donc du péché, et le sacrificateur se souillait. Quand des frères s'occupent d'une chose de moralité dans l'assemblée, ils sont souillés. Quand ils parlent à une personne concernant des mauvaises choses moralement, on est souillé, si on le veut ou non. Et ici, il est dit, soyez prudents. Ne pensez pas que vous pouvez vous occuper de toutes sortes de choses. Craignez même le souillement, la souillure de vos vêtements, de votre marche extérieure, n'est-ce pas? Et c'est une chose, chers amis, spécialement encore les jeunes, excusez-moi. Il est dans le monde, c'est une chose inouïe qu'un jeune homme et une jeune femme qui ne sont pas mariés ne peuvent pas aller ensemble. Mais si tu le fais avec une sœur, un jeune frère, tu vas dans la voiture, tu fais en vacances, tout le monde pense, ah, les deux sont un couple. Et tu dis non, il n'y a rien. Tu souilles tes vêtements. Tu donnes l'impression pour le monde, c'est naturel. Mais non, ce n'est pas le cas. Tous les chrétiens peuvent y croire, mais le monde pense que c'est un couple. Vous n'êtes plus un témoignage. Et on pourrait ajouter des choses, n'est-ce pas? Craignez même la souillure de vos vêtements, n'est-ce pas? Ne donnez pas l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas comme ils sont. Pensons seulement en disant ces choses, je rappelle encore mes pensées que j'ai exprimées concernant le mariage, n'est-ce pas? Ça ne vaut plus rien dans le monde, mais pour nous, ça doit toujours être une sainte chose, le mariage, et tout ce qui appartient. Et un homme ou une femme quelconque qui sont ensemble seuls donne toujours l'impression que c'est un couple. Et on doit avoir des témoins. Mais ne faites pas seul. Excusez ces paroles assez ouvertes. Mais je pense que nous nous trouvons dans un monde où le monde parle tellement ouvertement que un langage que nous connaissons dès notre jeunesse, dès notre enfance, c'est un saint langage. Et il doit rester saint. Mais si la parole, par exemple en 1 Corinthiens 7, parle clairement des péchés en relation avec le mariage. Dans les jours de ma jeunesse, on n'a même pas lu ces chapitres. Chapitre 7 de 1 Corinthiens, j'ai expérimenté deux fois dans un rassemblement, ça fait 50 ans, qu'on n'a pas lu et non plus médité sur ces chapitres. Bien qu'il soit dans la parole, aujourd'hui, nous voyons plus clairement. À cette époque, ces problèmes n'étaient pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voyons clairement que ces problèmes ne sont pas seulement là, qu'ils ne doivent pas seulement être traités, mais que la parole nous en parle et nous instruit clairement, comme jusqu'à dans les détails de la vie, comment se comporter. C'est pourquoi, c'est dit, pour nous, naturellement, on ne doit jamais oublier que nous parlons des choses dont Dieu nous a instruits. Et que cette sainteté nous convient toujours, mais cela ne nous empêche aucunement d'adresser ces choses qui sont nécessaires. Et c'était mon désir de faire un peu plus clair les circonstances, d'ouvrir nos yeux pour les dangers qui sont là, mais aussi pour ouvrir nos yeux pour la clarté et la beauté de la parole qui nous présente finalement, comme ici dans les versets que nous ne pouvons plus considérer, la gloire de notre Seigneur qui nous attend. Dieu peut nous garder, nous ne pouvons pas faire ça. Dieu peut nous élever et il nous gardera jusqu'à le moment où le Seigneur nous présentera devant la gloire de notre Dieu et Père. Soyons heureux, soyons reconnaissants de toutes ces bénédictions dont nous avons été comblés, mais aussi reconnaissants pour les instructions que la parole nous donne pour tous les détails de notre vie et qui veut toujours diriger nos yeux vers le Seigneur, que lui est en toute chose la première place.